No, qui nel caso di Israele sì, nel periodo di Israele c'era troppo, c'era stato ciò di forse nostri modo, che lo usato anche se non è no, le viaggi povane che credono le figure della vigna povane di forse quasi o considerano della carità e per povane cose e per te per precisano un uguaglione ce n'est pas la première fois que la pauvre passe à la thèse, nous l'avons vu au chapitre 18e, tandis qu'il se rendait de province à Jérusalem, il s'est arrêté à la thèse, comme nous voyons au verset 18e, ou plus exactement au verset. Oui, c'est là à Éphèse que l'apôtre a laissé ses chers amis Priscilla et Aquila. Nous voyons au verset 19e, il arriva à Éphèse et les y laissa Priscilla et Aquila. Mais étant rentré lui-même dans la synagogue, il discourut avec les Juifs. Voilà un l'enseignement que l'Esprit de Dieu donne concernant ce premier séjour de Paul à Éphèse. Il est entré lui-même dans la synagogue, il discourut avec les Juifs. C'était ainsi que procédait toujours Paul, arrivant dans une localité, en dehors de la Palestine, il entrait dans la synagogue parce que le salut de Dieu était pour le Juif, premièrement, ensuite pour les grecs, c'est-à-dire pour le gentil, pour l'âme des nations. Et la pauvre commençait dans le général à rentrer en contact avec les hommes de son peuple, de sa race, avec les juifs. Et quand on fait lui-même en synagogue, il discourut avec les juifs. Puis la pauvre est partie d'Éphèse, verset 21 du chapitre 18, il est parti par mer, il a abordé la synagogue. Comme c'est la nouvelle qui a expliqué hier après-midi, il est monté à Jérusalem, il a servi l'Assemblée, et de Jérusalem, il est descendu en Antioche. Avec le verset 23, commence le troisième voyage du semaine de la pauvre. Au chapitre 19e, il arriva comme Apollos, c'était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à l'Éphèse. Et ayant trouvé le certain disciples, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Certains disciples, c'était donc des croyants qui s'y sont appelés ainsi, certains disciples, c'était des croyants, nous avons vu. Mais l'apôtre, avec le discernement spirituel que le Seigneur avait accordé, se rendait compte que tout n'était pas à l'unisson avec la foi qu'ils avaient. Et voilà pourquoi la question est posée, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Il y avait un comportement, il y avait un discours, chez ces certains disciples qui ne correspondaient pas avec la foi dite chrétienne. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? C'est comme si on vous disait, mais savez-vous que celui qui croit reçoit l'Esprit Saint? Mais vos comportements, vos discours, vos pensées ne coïncident pas du tout avec cette foi qui vous a été donnée. Et il lui dit, mais nous n'avons même pas à lui dire si l'Esprit Saint est. Cela ne veut pas dire, cher ami, que c'est certain qu'il y aurait l'existence de l'Esprit de Dieu. Ils savaient parfaitement bien que l'Esprit Saint existait, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que quand on a cru, l'Esprit Saint nous est donné de Dieu, il descend dans une âme qui croit, comme il a dit dans l'Assemblée. Cela, c'est certains disciples qui l'ignoraient. D'où la question, d'où la réponse qu'il donne à la question de l'apôtre, nous n'avons même pas voulu dire si l'Esprit Saint est. Il est ajouté que, et de quel baptême vont arriver à être baptisés? Et il dit du baptême de Jean. Donc, lui, Jean a baptisé. c'est une vraie période de la reconfiance, disant au peuple qu'il crut en celui qui venait d'après lui, c'est-à-dire en Jésus. Vous avez donc été baptisés du baptême du Jean. Vous avez reçu l'enseignement de leur mère qui était Jean, Jean-Baptiste, Jean le professeur. Voilà ce qui possédait l'enseignement de Jean le baptiseur. Et leur pensée n'avait pas été là. Donc, ils étaient des croyants, mais ils n'étaient pas encore des chrétiens. Restant au stade de l'enseignement de Jean le baptiseur, mais n'ont pas été au-delà, ils n'étaient pas des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas la personne du Seigneur, comme il faut la connaître, comme un chrétien a le privilège et l'honneur de le connaître. Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple que plus en celui qui venait d'après lui, c'est-à-dire en Jésus. Jean, le baptiseur, avait parlé de l'Esprit Saint. Il avait dit que Pétrin viendrait, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Donc Jean en avait parlé. Donc les disciples, ces certains disciples, disciples de Jean le baptiseur, connaissaient cet enseignement de l'Esprit Saint. Nous répétons ce qu'ils ignoraient, c'est que cet Esprit Saint nous est donné et vient ajouter dans l'âme qui croit. Comme un peu plus tard, un peu plus qui va être de cette assemblée ici naissante, dans le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, le verset que nous connaissons de la paix que nous venons, que l'on cite, Éphésiens 1, verset 13, nous qui avons espéré à l'avance en Christ, en qui aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Ainsi donc, je connais bien cela, je vois. Quand j'apporte ces deux points, quand j'apporte du « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» il ignorait que l'Esprit Saint descendait dans le âme qui croit que c'est le Seigneur. Voilà pourquoi on peut reposer cette question. Et puis, deuxièmement, quand eux disent que nous n'avons même pas vu dire si l'Esprit Saint est, ce n'est pas qu'ils ignoraient l'existence de l'Esprit Saint, mais qu'ils avaient entendu la parole de Jean le baptiseur, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était précisément que l'Esprit Saint était venu sur la terre pour habiter dans le parlement, pour habiter dans le temple. Jean avait donc baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il crut en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Voilà la somme de l'enseignement de Jean le Baptiseur. Cet enseignement est très grand et aussi clair. En fait, cet enseignement a comme thème il n'est pas entendu par le Sauveur, le Seigneur, et même pas le Christ, malgré la petite note qui nous dit que le Christ reçu plus tard a ajouté le titre de Christ, il est simplement dit Jésus. C'est ce que les textes originaux premiers disent, simplement le Christ. Et il fallait que l'on sût que celui qui allait venir lorsque Jean le Baptiseur était Jésus. L'homme de Jésus de Nazareth, celui qui a été annoncé par les prophètes, le Christ n'était personne d'autre que Jésus de Nazareth. Voilà la venue de qui Jean le baptiseur parlait. Ayant vu ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Alors, ils avaient reçu le baptême de Jean, et maintenant, ils reçoivent le baptême chrétien. Ce signe de la mort, ce signe de la mort du Christ, mort avec laquelle nous sommes introduits dans le domaine de la profession parce que nous sommes introduits dans cette vaste maison de Dieu qu'est le monde chrétien. Je l'appelle l'espérance. Mais rien d'autre qu'un signe de notre entrée dans une sphère nouvelle qui s'appelle le christianisme. Un juif baptisé au jour de la Pâque montrait par la mer qu'il quittait le judaïsme pour rentrer dans une enceinte nouvelle, l'enceinte du christianisme, là où Dieu est connu comme étant le Père, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est plus Jéhovah, mais c'est l'Éternel, c'est le Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Un païen, lui, si tu serais où Dieu n'est pas connu du tout, comme tu l'as connu, Dieu n'est pas connu du tout, pour entrer dans la sphère bénie du christianisme. Ils furent baptisés sous le nom du Seigneur Jésus, pour reconnaître son autorité, celui qui a tout droit sur la maison de Dieu. Il y a ce Seigneur qui a pour preuve dans cette même épître, qui écrira plus tard et qui adressera au frère de ce pour le charité et pour le Jésus. Ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Nous en ferons un mot. Ce n'est pas tant que les amis nous appellent au nom du Seigneur Jésus. Nous savons bien qu'il n'y a en deux pas ça. Nous en pouvons traduire au nom du Seigneur Jésus. Mais si nous sommes appelés à baptiser, nous baptisons pas tant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme si nous étions là le représentant du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous baptisons pour le nom, au vue du nom du Père, de du Fils et du Saint-Esprit, plus spécialement en vue du nom du Seigneur Jésus. Autrement dit, quand il est dit que nous avons été baptisés pour un homme, comme les enfants d'Israël ont traversé la mer, ils ont connu ce baptême de la mer de Christ pour Moïse. Nous-mêmes, nous sommes baptisés pour les personnes. Les enfants d'Israël ont connu le baptême de la mer rouge pour suivre un chef qui s'appelait Moïse. Et les mères qui ont dit, nous sommes baptisés pour suivre le Seigneur. Le Seigneur va alors nous accorder l'entrée dans ce sphère de vie et le christianisme. Et le baptême est simplement le signe de notre adoption dans cette sphère de vie.
Comme personne existe, puisque c'était
ท่านแต่ว่าเส้นราคาที่เราเรื่องการต่อรองหรือวิธีดีไซน์หรือใช้วิศวกรทั้งหมดหรืออยากพัฒนาให้มากแก่ไม่ต้องไปลงเสียเงินเนาะที่เราไปสร้างตัวเด็กพัฒนาตัวเด็กดีไซน์วิศวกรทั้งหมดเราเซ็ตอีเมลที่ต้องทำตัวเด็กที่ดีเอี่ยดียุติธรรมจะเป็นมิสซอนบอมเบอร์เอี่ยดีมอดีฮอปเอี่ยดีเดือดสุดโลกแล้วเราอยู่เราเจอโอกาสอยากไปเชียร์เด็กเราส่งเพื่อนที่ไหนแล้วเสร็จแล้วตอนที่เราเด็กใครที่ไรเด็กเด็กนี้ลองดูสักครั้งดูสักครู่หนึ่งคือวิทยาPlusieurs reprises étaient manifestées devant les Israélites. Le Seigneur Jésus venait à son peuple dans l'ancienne économie. Maintenant, verset 10, mais ils se révélèrent et confisquèrent l'esprit de sa sainteté. Ils vinrent dans le même passage, verset 11, où est celui qui mit l'esprit de sa sainteté sur le devant de lui? Verset 14.L'esprit de l'Éternel l'envoie de retour. En tout d'autres mentions dans l'Ancien Testament, il y a surtout ce passage que nous connaissons en Joël 2 qui est cité à l'occasion de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Donc nous devons très clairement comprendre que cette question ne trouve aucune réponse. La réponse ne pourrait pas dire.Qu'ils ignoraient l'existence du Saint-Esprit, mais ils ignoraient dans leur entendu qu'ils soient venus de cette façon-là, qu'ils soient venus de la façon qui caractérise l'économie chrétienne. Et une fois que nous avons l'entrée dans cette position, le baptême de l'Esprit a parlé. M. Kelly,le prêtre André a dit dans un de ses livres que le baptême du chrétien présuppose que le Seigneur mort et ressuscité. L'œuvre de la rédemption accomplie, la rémission des péchés proclamée en son nom. Et ce que ses disciples ne connaissaient pas à ce moment, c'est pour cela qu'ils n'avaient pas eu connaissanceDu privilège des nôtres, le baptême du Saint-Esprit sur la base de l'œuvre du Seigneur. Le sujet du baptême est un sujet très délicat à traiter. Nous savons que c'est la seule vérité importante de la parole.Pour laquelle il n'y ait pas de vue unanime parmi les croyants avec qui nous rassemblons. Je ne veux pas entrer dans des contestations ou dans des discussions sur ce sujet, mais j'invite chacun à lire dans la parole les nombreux versets dans le temps du baptême et à demander au Seigneur de l'éclairer. Le baptême.Plusieurs significations. De même que la sève a deux significations. De même que la terre en a moins deux. Et la seconde signification est chaque fois une révélation que Dieu a donnée à la petite corde. Si nous prenons la sève, le pain que nous avons sur la table le dimanche matin représentaitau moment où le Seigneur l'a distribué à ses disciples, mon corps qui est donné pour vous. C'est le corps, il est immatériel du Seigneur. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous apprend dans 1 Corinthiens 10 ? Il y a une seconde signification plus profonde, c'est que ce pain représente non seulement le corps du Seigneur, mais le corps mystiqueformé de tous les croyants sur la terre, unis à Christ, dès de l'Église ancienne. Vérité précieuse, ce sur laquelle les frères de l'Église insistent beaucoup, et c'est un principe de base de notre Église, celui de l'unité du corps de Christ. Dans beaucoup de dénominations qui nous entourent, on célèbre peut-être par celle, avec certaines cérémonies qui entrent les caractères, mais au moins on se situe à la montée. Mais le principe de l'unité du corps de Christ n'est pas connu et reconnu, et on n'insiste pas très bien. Et donc, c'est très important que chacun de nous et ceux qui sont dans nous comprennent que dans ce pacte que nous voyons sur la table du dimanche, il y a deux significations. Le corps de Christ qui s'est livré pour nous et le corps formé par tous les croyants sur la terre à quelques dénominations qui se rattachent, mais qui sont unis à Christ qui est la terre de l'Occident. Et bien, dans la terre, je crois qu'il y a aussi deux significations. L'eau représente une purification. Lorsqu'on venait auprès de gens, en signe de repentance, les gens qui venaient être lavés ainsi de leur péché. Et au commencement du christianisme, lorsque l'on baptisait les personnes, eh bien, c'était le signe du lavage de leur péché. Vous avez vu verset, lorsque Paul donne le seul récit de la Bible, chapitre 9, chapitre 22, verset 26. Chapitre 22, comme il dit Ananias, verset 16, et maintenant que parles-tu, lève-toi et sois baptisé et te lave de tes péchés à l'enfance. Et te lave de tes péchés. De même que l'eau purifie le corps de la santé de la terre, de même que nous avons purifié les péchés de la terre. C'était le signe qu'on était lavé de tes péchés. Dans le sens que le premier temps, pourquoi ? Mais si nous disons dans le livre de Romains, eh bien là, la foule est l'eau qui a un autre sens de baptême. Et nous connaissons absolument quelque chose dans Romains 6. C'est cité d'ailleurs dans le premier. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, alors nous étions baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort. Afin que comme Christ a été ressuscité dans le mort par la gloire du Père, nous aussi nous marchions dans le Christ Jésus. Il y a dans la vie de Christ et dans la vie de chaque croyant une période de tragédie. Il y a la mort, il y a l'ensevelissement et il y a la résurrection. Le Seigneur a passé par ces trois jours aussi. Il est mort au vendredi, il a passé le sabbat dans le tombeau et il est ressuscité vivant. Et bien pour nous, il y a cette période de trois jours qui revient très souvent dans la parole de Dieu. Dans l'Exode, par exemple, dans les dossiers, et vous nous connaissez trois jours. Et bien nous avons d'abord le fait que nous sommes crucifiés avec Christ. Et puis nous sommes ensevelis avec lui par le baptême. Qu'est-ce que le baptême ? Non seulement le signe du lavage des péchés, mais le signe que nous sommes ensevelis. Ce n'est pas seulement mort, mais ensevelis avec Christ. C'est bien cela qu'on dit ensevelis. Et puis nous sommes ressuscités, unis à Christ dans sa nouvelle vie. Et bien l'apôtre Paul insiste aussi, et l'apôtre Pierre aussi, sur cette seconde signification de baptême. Je crois que si nous nous méditons à la parole, il y a ces deux sens de baptême. Le signe de l'avant de mon péché, et le signe que nous sommes ensevelis avec Christ et ressuscités avec lui. Une période de trois jours que nous devons réaliser chacun dans notre vie concrète. J'insiste encore sur un autre verset. Et c'est naturellement la fin de Matthieu 28. Le dernier verset. Verset 19 de Matthieu 28. Allez donc, faites disciples toutes les nations, les baptisants. Avons-nous tous remarqué dans l'autre qui accompagne ce mot, les baptisants? Il est dit,
littéralement en disant eux. Faites disciples toutes les nations, baptisant eux. Qui paraît-il baptisé? Les nations? Non. Les disciples. Je dis cela parce que si la Seigneur de deux gens, ils ont peut-être fait du grec dans leurs études, ils ont fait ça, les nations, les dans le grec, par mot du neutre, par exemple. Et puis quand il est dit les baptisants, les, c'est en tous, c'est le pronom masculin. Il va baptiser toutes les nations, c'est ce qu'on a fait dans le christianisme, ou le pape Charlemagne, lorsqu'on a fait la conquête de certaines parties de la Germanie, tous les Saxons étaient d'office baptisés en fiction de l'Église. On les baptisait tous, dans cette certaine. Ce n'est pas les nations, mais on va dire les disciples. Je vous demande de réfléchir à ça. Les baptisants, les disciples. Ensuite, les baptisants, pour, en vue que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en effet, c'est la première fois que le Saint-Esprit est révélé clairement, dans cette formule, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour valider tout cela. D'ailleurs, ce que l'apôtre Paul envoie ici montre que c'est allusion à cela, dans le cas où je vous l'ai dit, dans Acte 19. Il est bien dit, verset 3, je fais le baptême, mais on a dit que le mot baptême est dans sa prospère. Il n'est pas dans le texte. Littéralement, c'est tout, moi, en vue de quoi, avec deux qui baptisent. La chose de Paul, c'est une salution, à nous de la vie, baptisé en vue du nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. En vue de ça, c'est la révélation de la Trinité. Vous savez, pour la Trinité, et aujourd'hui, pour bien des peuples qui sont particularisés, c'est quelque chose de difficile à admettre. Donc, on dit en arabe, mais admettre que Dieu a un fils pour moi, c'est quelque chose que je ne veux pas. Reste à la scène. Et nous avons cette vérité qui est déjà révélée dans l'Ancien Testament. Nous devons être obscurs. Parce que je vais vous rappeler les versets de Isaïe 53. Il y en a d'autres. N'oublions pas que la parole de Dieu commence par une chose grammaticale. Le premier verset de la Bible, c'est au commencement, les dieux créa. Les dieux, vous voyez, le Dieu est créa au singulier. Parce qu'il y avait déjà dans cette première révélation de Dieu, cette idée de la pluralité de la divinité. Je dis, l'homme est devenu comme l'un de nous, avant le chapitre du Père. La première révélation claire de la Trinité se trouve, je crois, dans Ésaïe 42. C'est Dieu qui frappe. Premier verset de Ésaïe 42. Voici mon serviteur. Et nous savons par Ésaïe, d'abord le serviteur de l'Israël, il est le serviteur infidèle et Dieu a pris le Messie comme serviteur. Mon serviteur que je soutiens. C'est Dieu qui dit je. Mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se protège, je mettrai mon esprit sur lui. Mon serviteur et mon esprit de lui. Et comme ça s'est réalisé, au marché de l'homme, là, on a entendu la voix de Dieu qui a mis son esprit sur son élu, son serviteur, en qui il pouvait sauver. Il y a le baptême chrétien, tout différent du baptême de l'homme. C'est la révélation d'abord de la Trinité qui on baptise tout en vue. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce qui est encore obscur dans l'Ancien Testament est devenu une révélation qui est pour le cœur du croyant quelque chose d'étonnant et d'admirable. Le Père et le Fils ont pensé à chacun de nous Hoje só tem coisas sérias que a gente está conquistando assim. Tu ofereces, tá? Tá fazendo o qual, ó? Você vem na nossa. E ela, se a gente está na montanha, ela não pode ser. É, eu vou lá na roche, vou meter a pegar tudo, a partir de Jean 7, que é o meu cabra, que é o que eu vou fazer com o Jean 7,
l'étranger ayant de frère qui prononce le fondus pour le Père et pour le Fils et pour le Saint-Esprit et qui y ajoute et pour le nom du Seigneur Jésus se basant sur ce verset que nous avons devant nous. Qu'est-ce que le Père ici en parle? Est-ce qu'il est nécessaire d'ajouter quelque chose à ce fondus pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit?
Bien confirmé, Matthieu 28, souligné tout à l'heure, Ce n'est pas toutes les nations qu'il faut baptiser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dans le monde, prêcher à toutes les nations l'évangile, à toutes les nations. Voilà ce qu'il faut faire. S'il s'agit du baptême, le Seigneur parle de manière individuelle. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Il n'est donc pas question d'une action générale, baptiser toutes les nations, mais il y a un individu qui aura cru, il sera baptisé et il sera sauvé. Et celui qui n'aura pas cru sera condamné.
Pour répondre à la question de M. Dandibal, je crois que c'est toujours plus simple. Si nous respectons, comme nous le devons, la parole entre nos mains, combien plus nous devrions-nous faire grande attention aux paroles que le Seigneur Jésus a dit lui-même quand il était ici sur la terre. Et nous avons dans ce verset, que nous avons fait allusion à plusieurs reprises à la fin de Matthieu, ce qu'on pourrait appeler, excusez-moi le mot, le contenu de parole, que le Seigneur enseigne lui-même, les baptisant pour le nom Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas une contradiction du tout, quand nous trouvons dans le cas, que ses disciples étaient baptisés au nom du Seigneur. Au contraire. Ils avaient jusque-là connu et été baptisés par le baptême de Jean. Ce que Jean faisait dans le baptême, en tant que d'ailleurs, c'était l'appel à la repentance. Jean le Baptiste était celui qui ouvrait la porte pour le Seigneur et venait venir après lui. Alors, quand ils ont appris mieux, ces disciples ont été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là, on a le contact le plus complet possible, le plus impressionnant possible. Ils avaient été baptisés par celui qui était le précurseur, le messager. Rien d'autre. Maintenant, ils sont baptisés pour le Seigneur Jésus, sur la base de l'œuvre complétée par lui et par lui seul. Mais comme notre frère de ce qu'il vient de le dire tout à l'heure, il est une chose infiniment touchante pour nous que les trois personnes de la Trinité ont été en activité dans cette œuvre qui nous donne. C'est le Seigneur Jésus qui est mort et qui est descendu du matin, qui est ressuscité. Et sur la base de son œuvre de la vie, que nous en trouvons. Mais le Père a conçu ce plan séquencé admirable. Le Père a donné le Fils. Le Fils est venu en obéissance pour accomplir l'œuvre du corps qui veut et qui nous sauve. Et le Saint-Esprit a été avec lui et a démontré comment cette œuvre a plu à Dieu en lui donnant la base pour la réalisation de ses désirs d'avoir une famille sauvée dans le présent des choses. Donc, il n'y a pas de contradiction. Ils sont ici, baptisés sur la base de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus. Mais, je répète, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient à l'œuvre dans ce travail de salut. Voilà pourquoi. Nous devons employer le simple portrait énoncé par le Seigneur Jésus de sa propre vie.
Ce sont des termes employés dans les deux disciplines Mais il relève dans l'esprit superstitieux. Et dans l'esprit qui s'appuie sur la tradition, dans le passé terme, dans la parole de Dieu. D'ailleurs, simplement, bien paraît-il, de la coutume des soldats romains qui juraient fidélité à leur drapeau, s'engageaient donc solennellement à servir fidèlement le drapeau qu'ils avaient au milieu d'eux. Tandis que la parole de Dieu n'emploie pas ces termes. Nous avons donc deux institutions fondamentales de la plus haute importance qui viennent d'être exposées devant nous. Et nous avons fait à notre perspective d'avoir précisé clairement l'institution du baptême et l'institution de la scène, toutes deux en rapport avec la mort du Seigneur. Bien entendu, le baptême de Jean identifié à un Christ vivant, venu dans ce monde. Le baptême chrétien, nous l'avons entendu, pour cela, je le répète, exposé si clairement. Nous passons devant un Christ mort, à la mort duquel nous avons part. L'eau du baptême prend cette figure de la mort. La révélation des trois personnes divines est évidemment en rapport avec le christianisme. L'Église ne connaissait pas cette vérité précieuse. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un seul éternel. Mais c'est le seul vrai Dieu. Sans doute, le passage tel que ceux qui ont été cités dans la Genèse, Elohim, les dieux, introduisent déjà dans cette glorieuse révélation qui ne sera présentée dans toute sa dimension que lorsque le Seigneur sera sur la scène. Dieu leur entendre sa voix, l'Esprit Saint descendra du ciel de la forme d'une colombe. Et à l'entrée du ministère du Seigneur, nous avons ainsi les trois personnes divines pleinement révélées. Dieu, le Fils, Dieu le Père, qui parle de son Fils, et Dieu, le Saint-Esprit, qui descend pour prendre possession du Saint-Baptême, dans lequel toute la puissance de Dieu sera déployée. Celui qui va donner sa vie précisément le Père donnant le Fils se donnant lui-même et se donnant par l'Esprit éternel. Les trois personnages dans le travail de la rédemption comme dans celui de la résurrection, ressuscité par la gloire du Père, ressuscité par lui-même, personne de l'autre en parlant de sa vie, de la naître moi-même et j'ai le pouvoir de l'enfant et vivifié par l'Esprit éternel. Nous nous dédicons ici de notre académie qui, dans l'école du témoignage, je crois qu'elle mérite d'être citée en parlant précisément de la révélation des personnes divines. Ils n'ont pas le même conseil, mais un seul conseil, une seule pensée. Toutefois, les personnes divines n'agissent pas d'une manière distincte. Toutefois, les personnes divines agissent d'une manière distincte dans la manifestation de ce conseil. Le Père envoie le Fils et le Fils le Saint-Esprit. Toutes trois, les personnes divines sont Dieu. Retenons cette phrase, je crois qu'elle a beaucoup de valeur. Toutes trois sont Dieu. Tous un seul Dieu. Dieu, toutes trois. Répétons. Toutes les trois sont Dieu. Tous un seul Dieu et Dieu tous les trois. Quant à la possession du Saint-Esprit, on peut citer aussi que le Seigneur disait commencer par la révélation du don lui-même, de ses grands faits de cristianisme. Dans l'évangile de l'an Jean, le chapitre 14, le Seigneur vient de parler de son départ. Le chapitre de consolation, le chapitre 14 de l'évangile de Jean, nous le savons bien. Le Seigneur s'en va au Père pour revenir plus tard chercher les siens. Et entre les deux terres, entre ce grand ciel de ton ascension et de ton retour, le Saint-Esprit sera envoyé sur la terre. Alors ça, c'était par une fois que j'ai dit tout à l'heure, ici, dans toute sa valeur, l'Esprit n'était pas encore comme personne divine pleinement manifestée sur la terre, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre comme personne divine après un an de monter au ciel pour venir attester sur la terre par des actes de puissance extraordinaires que Dieu avait ressuscité, que Dieu avait glorifié l'homme et Jésus. Le Saint-Esprit descend sur la terre pour en apporter un témoignage irrécusable. Le Seigneur parlant du Saint-Esprit dans Jean 14, après avoir présenté le grand fait de son départ vers le Père, pour le Père dit au verset 16, « Et moi, Dieu, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » C'est-à-dire, le Seigneur était au milieu d'eux, le consolateur, et en son allant, le Seigneur leur annonce un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Saint-Esprit ne nous quittera plus jamais. Lui qui a reçu le Saint-Esprit l'a reçu pour l'éternité. Il va nous le voir tout de suite. Pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Dieu invisible, qui n'est pas connu du monde, qui est reçu dans le cœur, l'Esprit alors, rendant ce témoignage, sans aucune équivoque, avec notre esprit, que nous sommes l'enfant de Dieu. C'est l'esprit d'adoption qui rend témoignage que nous sommes bien des enfants de Dieu, et comme tel, héritiers de Dieu, et vont hériter avec le Seigneur. Donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, collectivement, et qu'il sera en vous personnellement. Donc la position chrétienne, c'est celle que nous avons ici, le Saint-Esprit habite dans le croyant. La foi au Fils de Dieu, mort pour mes fautes, ressuscité pour ma justification, entraîne comme conséquence le sceau du Saint-Esprit sur cette foi qui a saisi Christ et la bénédiction de l'œuvre qu'il a accomplie. La position chrétienne sera en vous, et le Seigneur ajoute un peu plus loin, en ce jour-là, au verset 20, par le fait que le Saint-Esprit habite en moi, en ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis dans mon Père. L'Esprit en est prêt, nous donne la connaissance de la position céleste du Christ, ressuscité, assis, glorifié à la droite de Dieu. Première chose. Le Saint-Esprit rend à ce témoignage que je suis dans mon Père et vous en moi. Voilà la position de Père. Vous en moi. Vous en moi devant Père. Le croyant, c'est un homme en Christ, présenté en justice devant Dieu, en Christ. Vous en moi. Nous sommes donc ici, en présence de l'Épître aux Éphésiens. Il nous place dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus, assis avec le Christ. Vous en moi et moi en vous, c'est le côté du témoignage, c'est le côté de la terre, c'est le côté des titres colossiens. Christ en nous, un témoignage que nous devons rendre. Et d'abord, vous en moi, devant Dieu, présenté sur ce bon banc de justice, de famille avec toi, devant Dieu. Toute chose étant faite nouvelle, voyant une nouvelle création. Pour un mort, dans la deuxième vie de l'Orient, le talon, le nom du Saint-Esprit, protège. Ils sont facilement accueillis et qui posent pleinement, posent en fait devant nous des faits fort importants que nous retenons à partir d'un terme littéraire. Tout cela se prête à une espèce de manipulation intellectuelle. Nous ne connaissons qu'en partie. Si nous saisissions toute la vérité, c'est bien l'idée de tout cela. faut toujours bien le retenir. Nous sommes en présence de l'infini. Quand Dieu nous parle par sa parole, elle est identifiée avec lui-même, c'est l'infini. Si nous, avions la prétention de dire que nous comprenons toute la parole et que nous pouvons tout expliquer, nous aurions la prétention de dire que nous ne sommes plus des autres, que nous sommes comme Dieu. Mais Dieu nous tient à notre place, nous ne connaissons qu'en partie. Mais dans la mesure où nous pouvons entrer dans la connaissance de ces vérités, nous en jouissons toujours mieux, nous jouissons davantage de tout ce que le Seigneur nous a appris au lieu de ses souffrances et de sa mort, et nous sommes mieux établis dans la vérité présente. Et par conséquent, moins vulnérable à celui qui s'attaque surtout à ceux qui sont faibles. Comme autrefois, les dieux venaient donc eux, lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, ce sont ceux qui ont été les premières victimes dans la guerre. Nous ne demeurons pas des petits-enfants. Nous ne contentons pas d'un état intérieur quant à la croissance, à l'égard de laquelle nous sommes invités à connaître, à réaliser, à avançons vers l'état de paix. Nous devenons un petit garçon et une petite fille qui tout à coup ne croit après tout. Sa croissance serait tout à fait arrêtée. Quand les parents seraient saisis d'angoisse en voyant que cet enfant ne se développe plus. Quand on dit qu'il en est autrement sur le terrain spirituel. Afin que nous ne soyons pas entraînés dans la vie des hommes, baloter ça et là devant le doctrine, dans leur habitabilité de voir les premiers pour les là. Alors dans le livre corinthien, le bénéfice de Dieu, c'est encore sur le verset, chapitre 1er, revenir au verset 21, or celui qui nous lie fermement avec Dieu la Christ, qui nous lie fermement avec vous à Christ. Quel est le lien qui nous unit ensemble à tous? Quel est l'élément fondamental qui forme l'unité de tous les croyants de Dieu? Est-ce la foi? Est-ce l'amour? Je veux dire, ce sont des choses importantes. Mais ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'amour qui nous unit ensemble et qui nous unit fermement ensemble. En tout, il est bien désirable que nous marchions par la foi et que nous saisissions que la parole de Dieu entend par la foi des élus de Dieu, la foi qui a été une fois enseignée aux saints, vérité fondamentale de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la foi qui nous unit au sang de l'Église, c'est un lien divin, indestructible, le Saint-Esprit. Celui qui nous lie fermement avec nous, Christ, et qui nous a un, c'est Dieu. D'abord, l'onction dont parle l'apôtre Jean. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un nous enseigne des apôtres dans la première vie. N'avons-nous pas besoin du ministère? Certainement. Nous avons besoin du ministère de l'Esprit de Dieu. Et donc, vous dites qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas besoin d'un directeur de conscience. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un soit notre maître pour nous enseigner la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de cela des apôtres, car nous avons reçu l'onction par laquelle nous connaissons toutes choses. L'onction, c'est donc cette faculté donnée de Dieu pour saisir sa pensée. C'est une question d'intelligence. Onction égale intelligence et pensée de Dieu. Sans mettre en aucune manière de côté les dons du Saint-Esprit, les secours de l'Esprit. Pas de confiance. Mais l'onction que nous recevons par le Saint-Esprit, c'est une affaire d'intelligence pour comprendre les pensées de Dieu que nous ne pouvons pas saisir par notre esprit naturel. L'esprit naturel est un outil, rien de plus. Nous ne nous élevons pas jusqu'à Dieu par notre esprit. Notre esprit ne peut que nous égarer, nous comme les pensées des hommes qui ne sont que dans nous. Mais l'esprit de Dieu en nous, notre ouvre, c'est lui qui nous ouvrira, qui nous fera connaître la vérité. Rappelons les choses de l'Ancien Testament, les enseignants, rappelons les évangiles. Nous enseignons dans la vérité de tous les élus. Rappelons les actes de puissance que nous avons dans les pages des apôtres. Il y a plusieurs fonctions à l'enseignement du Saint-Esprit. Et nous annonçons les choses qui vont arriver de l'apôtre. Alors, l'onction, encore un mot, c'est donc une affaire d'intelligence qui nous a scellés. Le sceau, c'est une affaire d'assurance. Quand une âme est scellée, elle sait, elle a cette démonstration intérieure, inébranlable, qu'elle est un enfant de Dieu. L'esprit nous a été donné, l'esprit d'adoption par lequel nous disons à pas faire. L'esprit de la relation l'esprit nous fait connaître, qui nous fait jouir de la relation dans laquelle nous nous trouvons avec le Père. C'est la position chrétienne. Le Père peut